conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, jolie rentrée après la MIF, évidemment le salon de la MIF où vous nous avez écoutés sur toutes les ondes, enfin surtout sur les ondes de Radio Immo bien évidemment. Je reçois aujourd'hui Laurent Vuidel, bonjour.
Bonjour Myriam.
Laurent est ingénieur des ponts et chaussées et puis évidemment master à Mur, ça me dit quelque chose. Indépendamment de ça, vous êtes aujourd'hui le président de Eneo. Vous pouvez nous expliquer Eneo ?
Alors Eneo, ça s'appelait Le Richemont jusqu'à l'année dernière. On est une filiale de la RIVP, donc un des principaux bailleurs sociaux parisiens. Et notre spécificité, c'est d'être gestionnaire et développeur de solutions de logement temporaire, meublés, de résidence.
Voilà. Donc rassurez-moi, président, ce n'est pas honorifique, vous êtes dans l'action.
Voilà, bon, c'est l'équivalent d'un poste de directeur, mais comme la structure est une SAS, il se trouve que le directeur est un président.
Alors, je vais revenir un petit peu sur votre parcours, puisque vous avez travaillé plus spécifiquement dans le logement social, et surtout dans le développement. C'est-à-dire que le développement, c'est votre ADN ?
Alors en fait, moi j'ai commencé ma carrière dans le logement social chez Batigère et avant de faire du développement, j'ai fait beaucoup de rénovation urbaine. Et finalement, je trouve que c'est une assez bonne école de la maîtrise d'ouvrage que de travailler sur l'existant. Là en l'occurrence, c'était les grands quartiers, mais c'était également le patrimoine bâti. Et je trouve que ça donne finalement une assez bonne...
De l'humilité.
Oui, puis une assez bonne compréhension de l'intérêt de ce qu'ont pu faire nos prédécesseurs et du coup, une capacité à le transposer dans des nouveaux projets.
Alors là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes chez Eneo dans l'obligation de trouver du foncier, de construire de nouvelles choses. Quelle est la production annuelle, hein ?
Alors en fait, la production propre d'Eneo, c'est une cinquantaine de logements par an. Mais on prend en gestion beaucoup de patrimoine qui est développé par la RIVP, avec laquelle on travaille beaucoup en partenariat. Et donc au global, c'est à peu près 400 nouveaux logements qu'on prend en gestion chaque année.
Donc vous avez une partie en VFA, une partie en maîtrise d'ouvrage direct. Quel est votre mode de recherche pour trouver des fonciers ?
Alors aujourd'hui sur les parties soit en VFA soit en maîtrise d'ouvrage direct, on a des contacts avec l'ensemble des apporteurs d'affaires et
oui,
des promoteurs
Paris,
de la place.
Difficile.
Voilà, on est assez bien identifié comme étant ceux qui peuvent finalement apporter la bonne solution au bon endroit en fonction des produits qu'on peut nous proposer, puisqu'on a une offre de produits qui est très diverse et de public qui est très diverse. On répond à des appels à projets, enfin on fait un travail de développement assez classique.
Mais plutôt quand même des produits liés aux jeunes travailleurs, aux étudiants, à cette population constamment en mobilité, constamment en mouvement. Comment fait-on un programme pour ce type d'habitants, de futurs locataires, hein ?
Alors c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est qu'on ne fait que des produits d'occupation temporaire, donc qui sont des produits meublés. On a encore quelques hôtels, ça c'est un peu historique, mais on a des résidences étudiantes, on a beaucoup de résidences sociales pour des publics en insertion dans un parcours de logement. On a également un certain nombre de résidences hors du champ du logement social qui accueillent des jeunes fonctionnaires en mobilité, typiquement en prise de poste en Île-de-France, qui arrivent de province et qui doivent trouver une solution meublée, le temps ensuite de pouvoir s'inscrire dans un parcours résidentiel plus classique. Du coup, la programmation de ces logements-là, elle répond à deux impératifs. Le premier, c'est un impératif de confort des solutions meublées qu'on développe. Le but, c'est que les résidents puissent arriver dans un environnement sécurisé, où ils aient finalement qu'à poser leurs valises.
Pas avoir à se préoccuper d'aller faire des courses pour avoir un lit, une table,
voilà,
etc.
Effectivement,
tout est déjà meublé.
Tout est meublé, tout est équipé, micro-ondes, frigo, etc., literie. Et puis également, tous les fluides sont inclus, donc on n'a pas à ouvrir son électricité, etc. On peut vraiment arriver, poser ses valises et occuper son logement immédiatement. Voilà. Donc cette question du confort, elle est importante pour nous.
Ces produits sont de plus en plus sollicités construit aussi, entre guillemets, par les promoteurs, parce qu'ils répondent à des besoins, bien évidemment, mais c'est aussi une manière de faire et de construire sans faire du logement familial, puisqu'on sait que sur le logement familial, il y a des besoins, mais il y a de la tension à cause, évidemment, des équipements, de la nécessité de faire des équipements parallèlement. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits ? Est-ce qu'il y a une manière de construire ce type de logement avec des lieux partagés, avec des espaces partagés qui sont vraiment différents de la commande d'il y a 10 ans?
Alors c'est vrai que les produits qu'on fait aujourd'hui sont sans doute un peu moins stéréotypés qu'il y a une dizaine d'années. On s'oriente de plus en plus vers des solutions où on a effectivement des espaces communs, alors qu'on a toujours eu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une laverie, une salle polyvalente, enfin voilà, des choses qui étaient assez normées finalement. Aujourd'hui, on a des espaces qui finalement se rapprochent un peu plus de lieux de vie, un peu dans la mode du coworking et d'un certain nombre d'autres choses, et dans lesquels on va générer de la mixité de fonctions.
C'est-à-dire du co-living aussi, la possibilité de...
Ouais. Alors nous, on fait encore de la colocation, hein. On n'a pas basculé dans le co-living. On a souvent, pour blaguer, la tendance à dire que le co-living, c'est les produits qu'on propose nous, mais où les résidents payent à la semaine ce que nous, on demande au mois. Mmh. Voilà, pour nous, c'est une offre haut de gamme qui vise sans doute des populations qui ne sont, sont pas les nôtres. Par contre, on a effectivement des produits assez innovants en colocation. On en développe un dans le cadre de Réinventer Paris, aujourd'hui Place d'Italie, avec Pablo Katz. Et donc, on est là dans des recherches toujours de nouveaux modèles sur l'aspect effectivement vie en collectivité et partage d'un certain nombre de fonctions au sein de nos résidences.
Et alors, vous évoquez le fait d'avoir des hôtels encore, donc des hôtels meublés. Quel est l'avenir des hôtels meublés ? Parce que c'est vrai que dans Paris intramuros, on en découvre parfois au coin d'une rue. Mais bon, j'avoue que le modèle, je pense, est passé. L'étroitesse des lieux, la sécurisation de ce type d'hôtel minuscule avec des escaliers un petit peu de guingois, sans être dans une image à la Victor Hugo, comment fait-on pour changer le produit ?
En fait, c'est vrai qu'il y a toute une génération de ces hôtels meublés préfecture qu'on s'est approprié hein, publiquement avec l'aide de la ville de Paris dans des démarches de préemption ou d'expropriation et qu'on a transformé en résidence sociale. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résidence sociale, le produit qui accueille des personnes dans un parcours d'insertion, dans des logements meublés, finalement remplace l'offre qui existait précédemment d'hôtels préfecture et qui servait justement à la gestion de l'ensemble de ces mobilités. Après-guerre, le parc des hôtels préfecture était un parc très important.
Énorme.
Était le parc d'accueil des primo-arrivants dans Paris, etc. etc. Aujourd'hui, on a tendance à le remplacer, effectivement, soit par des produits de type résidence sociale qui sont vraiment ancrés dans le champ du logement, soit par des produits hôteliers. On a encore un hôtel social dans le 19e arrondissement, qui sont des produits qui remplissent une fonction d'accueil finalement plus inconditionnelle et plus rapide. Et c'est notamment dans cet hôtel, on accueille des sortants de prison, typiquement pour qui il faut trouver une solution très rapide à la sortie pour pouvoir leur permettre ensuite de s'installer, de commencer à travailler et à rentrer dans un processus d'insertion.
Et donc du coup, il y a par exemple pour eux la possibilité d'être accompagnés dans le parcours résidentiel.
Voilà, en fait,
une fois qu'ils ont trouvé un boulot, qu'ils ont été accompagnés par d'autres associations qui les aident à s'insérer professionnellement, vous les aidez dans le parcours résidentiel ?
Voilà, en fait, dans la plupart de ces solutions, on a des partenariats avec des associations qui sont, le cas échéant d'ailleurs, financées par les pouvoirs publics, par le département de Paris particulièrement, et qui accompagnent les ménages dans l'ouverture de leurs droits, les demandes de logement et le fait d'activer un certain nombre d'éléments, notamment d'insertion professionnelle, qui vont leur permettre ensuite de pouvoir rentrer dans une trajectoire résidentielle qu'on appelle positive, c'est-à-dire à un moment d'accéder à un logement de droit commun et de sortir du schéma de résidence pour rentrer dans un schéma d'appartement banalisé.
Alors du coup, mais en logement social.
Alors principalement en logement social, mais par exemple...
Les revenus ne sautent pas de peu à
oui.
Beaucoup.
Alors pour les ménages les plus fragiles, principalement en logement social, mais sur la population des jeunes actifs ou des fonctionnaires en mobilité, on a aussi toute une frange de la population qui finalement ensuite arrive à trouver des solutions dans le parc privé.
Alors, dans le cadre de Réinventer Paris ou autre type de consultation, vous avez l'impression que votre venue est une valeur ajoutée ?
Alors, si on regarde finalement le bilan de ces appels à projets, nous, on n'a pas participé à énormément d'équipes. On travaille pas aujourd'hui sur beaucoup d'opérations. Par contre, on se retrouve complètement dans la volonté que les usages soient mis en avant dès le démarrage du projet. Et en fait, on se retrouve là dans des démarches de développement qui sont très proches de celles qu'on menait nous jusqu'à présent.
Simplement, vous avez été sollicité
Pour participer à un certain nombre d'équipes et pour développer aujourd'hui des projets, mais c'est vrai que finalement pour nous c'était sans doute un peu moins une nouveauté parce qu'en tant que gestionnaire on a toujours cherché à être très en amont dans les opérations et avoir un accompagnement très fort de la maîtrise d'ouvrage, alors soit de la faire en interne ou en partenariat avec les équipes de la RIVP, quand on travaille avec des promoteurs ou au sein d'équipes avec d'autres propriétaires, on est très très attentif à la question du produit final. Et on a beaucoup d'éléments de discussion avec les maîtres d'ouvrage pour être sûr que ce produit final aura toutes les caractéristiques souhaitées pour une bonne exploitation future.
Et alors, est-ce que vous vous penchez aussi sur des produits pour mineurs, hein ? Parce que j'ai été confrontée, sans parler de mon expérience personnelle, j'ai été confrontée au fait d'avoir une demande de jeunes sportifs mineurs. Et c'est un créneau qui existe et qui est très problématique. Qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a choisi de ne pas rentrer dans l'accueil de mineurs parce que c'est des contraintes quand même très spécifiques en termes de... pour assurer leur sécurité, finalement, et la sécurité de nos résidents, c'est quand même la première de nos priorités. Donc, quand on travaille sur des sujets comme ceux-là, on travaille en partenariat avec des associations qui ont développé cette compétence-là. On le fait aujourd'hui à titre transitoire dans un ancien hôtel qu'on va transformer en pension de famille et sur lequel on s'appuie sur un partenariat associatif avec l'association Aurore qui, du coup, peut accueillir des mineurs au sein de l'hôtel, mais dans des conditions de sécurité et d'accompagnement qui sont cohérentes avec leurs compétences à eux.
Donc vous avez un bel avenir, cette société Eneo, dont le nom a changé récemment, est appelée à, je dirais, continuer un travail de fond sur la ville de Paris avec ses produits. Demain, c'est quoi vos projets ?
Nous, on poursuit une croissance importante, donc c'est vrai que ça nous amène à nous réorganiser un peu en permanence et à avancer dans le sens toujours de plus de qualité envers nos résidents. Je pense que un prochain pas dans les années qui viennent, ce sera sans doute l'arrivée sur des territoires nouveaux en première couronne.
Ah, nous allons en discuter la prochaine fois, puisque première couronne, vous allez commencer à venir sur le Grand Paris.
Voilà, on pense que assez naturellement, les objectifs de logements sociaux de la ville de Paris, à un moment, seront atteints et on aura sans doute une vocation à pouvoir aller voir un peu plus loin.
Parfait, nous nous retrouverons dans un an pour en parler.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.